j'ai commencé dans l'Esprit Nouveau en 1920 en disant il faut faire du foyer le temple de la famille. Et je me suis efforcé pendant une vie entière à rechercher cette chose-là. J'ai entraîné à ma suite toute la jeunesse partout dans le monde entier et je suis devenu l'homme qui a fait le plus pour l'habitation en faisant de l'homme le destinataire du logis, quel qu'il soit, à quelque classe qu'il appartienne et surtout pas aux classes aisées qui se débrouillent d'elles-mêmes.
Dans la ville inconnue, je n'aime rien. Je prends toujours des rues qui vont trop loin. D'interminables rues où je me perds. Des quais, des avenues et des boulevards déserts. Puis entre deux maisons.
La ville, c'est des gens, des habitations. Des rues, des blocs, du bruit, de la circulation, des places, des flux, du béton, de la végétation, des SDF, des prostituées, de l'eau, de la poussière. La poétique de la ville, par Thomas Rotureau, Caroline Laville et Anastasia Defay.
C'est un ensemble d'êtres humains qui cohabitent. Donc après, avec des infrastructures, avec et chaque ville est différente.
Quelque chose de froid et chaleureux à la fois.
La ville, je dirais le monde, le bruit et puis le mouvement et le changement aussi.
La ville, pour moi, c'est une tache sur une carte. Quand on est dans le train et qu'on est à la campagne et qu'on arrive dans une grande gare en fait. Et qu'on voit au fur et à mesure le paysage qui change.
Après, ça dépend quelle ville, hein, mais ça peut être très convivial comme très froid et austère.
C'est l'extension sans fin des zones commerciales aux périphéries de la ville qui sont au détriment des commerces de proximité du centre-ville. Et un centre-ville qui se meurt, c'est une ville qui se meurt, qui devient une cité dortoir.
Ah bah, la ville, c'est bien parce qu'en fait, c'est... C'est là où il y a la vie, il y a beaucoup de gens, les gens vivent, et c'est là qu'il y a de la vie, que ça s'illumine, et non, c'est top. C'est pas comme la campagne où c'est trop calme. La ville du Mans est une ville de lumière, les gens brillent et illuminent, et surtout la cathédrale du Mans, que je trouve très agréable, où je vais prier tous les dimanches matin vers 10h.
Monsieur le Corbusier, nous sommes venus chez vous pour vous demander et s'il existe, selon vous, une solution d'urbanisme pour Paris.
Il faut annuler les effets d'une longue négligence et chercher tous les moyens par lesquels Paris peut redevenir une ville de beauté et d'harmonie.
Voudriez-vous avoir la gentillesse de nous montrer quelques exemples?
Oui, volontiers. Je vais vous expliquer certains des moyens par lesquels on peut atteindre le but.
D'ailleurs, je crois, M. le Corbusier, qu'il y a très longtemps que vous réfléchissez à ces problèmes d'urbanisme.
Ah oui, une trentaine d'années.
Est-ce que vous êtes arrivé tout de suite au plan définitif ou bien est-ce qu'au contraire vous avez eu des étapes successives?
J'ai cherché très longtemps et j'ai créé des plans successifs. J'ai eu l'occasion de les montrer parfois dans des expositions, de les exposer dans des livres. Mais petit à petit, le silence s'étend sur ces choses-là.
Je suis né dans le béton. Coincé entre deux maisons, sans abri, sans domicile, comme un arbre dans la ville.
Gilles Clément, paysagiste dans Le Jardin en mouvement.
Seules les constructions de l'homme sont des accidents. Il n'y a pas d'accident au jardin. À peine achevées, les constructions de l'homme s'engagent dans un processus de dégradation irréversible. Leur inaptitude à évoluer les condamne tôt ou tard à la ruine. Lorsqu'une œuvre est achevée, elle est morte. La nature, au contraire, n'achève jamais rien. Elle endosse les ouragans, interprète les cendres d'un feu, invente un processus de vie sur les bases chaque fois nouvelles d'un bouleversement.
Comme un arbre dans la ville, je suis né dans le béton, coincé entre deux maisons.
Je crois que les plaisirs de la ville, c'est surtout les ennuis de la ville, mais en fait, pour les gens qui n'habitent pas les grandes villes, on veut leur montrer aussi que les plaisirs de la ville ne sont pas ce qu'ils pensent, et que quand on habite dans une grande ville comme Paris, ou même dans une grande ville comme New York, ou Londres, ou Rome, je pense que dans toutes les grandes villes, les problèmes sont les mêmes, la vie des citadins n'est pas aussi drôle, n'est pas aussi rose qu'ils peuvent l'imaginer.
Oui, vie des citadins avec toutes les tribulations des transports, par exemple, du stationnement, etc.
La vie d'un citadin en ce moment est absolument dramatique. Nous l'avons un petit peu, elle est tragique, mais je crois qu'en fait, la condition du citadin en ce moment n'est pas très marrante.
C'est évident, puisque nous sommes tous.
À Paris, Xenakis rencontre le célèbre architecte Le Corbusier, qui lui confie des calculs d'ingénieur et bientôt la réalisation de certains projets. Xenakis, pendant 12 ans, sera l'un des plus proches collaborateurs de Le Corbusier.
On les a confiés, cependant. On commence à vous les confier également en France.
Ça, d'accord. Je dis, il faut 40 années pour que... 30 années pour que les amis apparaissent, n'est-ce pas? Et puis 50 années pour que tout à coup la voix publique s'adresse. Alors à ce moment-là, on est déjà venu chez nous, on a perdu ses cheveux, hein. Et puis alors on vous accable d'un tas de demandes, mais c'est la vie, hein.
Et c'est en le voyant travailler que j'ai pris goût à l'architecture, parce que j'ai vu qu'il y avait des méthodes d'approche et aussi des concepts, des conceptions et des concepts qui étaient très proches de mes problèmes en musique.
C'est très différent. Vous avez des villes qui n'ont pas d'âme, qui n'ont pas de cœur, parce que ce sont des villes champignons, des villes dortoirs. Et tant qu'une ville, pour qu'une ville vive, il faut absolument qu'elle ait un cœur, il faut qu'elle ait une âme. Pour moi, c'est ça, une ville.
Que dire de la ville? Sinon, qu'on peut l'opposer à la campagne, à la nature. Il y a quelque chose d'antinaturel dans la ville, quoi. C'est peut-être ça qui manque, quoi. Créer quelque chose d'un peu plus organique, un peu plus vivant. Éviter ces courbes droites, ces volumes froids, austères. Il n'y a pas beaucoup de couleurs non plus. Je ne sais pas pourquoi.
La ville, c'est chouette, à part quand c'est comme Paris, qu'il y a beaucoup trop de monde et que personne ne calcule personne. Ou que c'est comme Le Mans, où tout le monde calcule tout le monde. Si on arrive un jour à trouver le juste milieu, ça serait génial.
Et c'est dommage, parce que c'est une ville qui mérite de continuer à vivre. Il y a des commerces qui peuvent être si sympas, des commerçants qui sont très sympas. Moi qui habite en centre-ville, je les fréquente. Il y en a certains qui sont devenus amis. Il faut arrêter le développement des zones commerciales sans fin, moches, qui entourent nos villes.
Enfin... Et encore plus grave, le son n'est pas du tout pensé aujourd'hui dans les villes. C'est clairement un gros problème. On a des architectes, des urbanistes qui font très bien leur boulot, mais des fois on se demande s'ils ont vraiment des oreilles.
Que se passe-t-il? N'y comprends rien.
y avait une ville. Et y'a plus rien, je me souviens que je marchais dans une rue, au milieu de la cohue, sous un joyeux soleil de mai. C'était plein de couleurs, de mouvements et de bruit, d'où sortait cette musique comme accordée sur l'infini. C'était étrange, est-ce qu'il allait neiger des anges? Les gens guettaient dans un mélange d'inquiétude et d'amusement. Et brusquement, je n'y comprends rien. Il y avait une ville, et il n'y a plus rien, il n'y a plus rien qu'un désert de gravats, de poussière, qu'un silence à hurler à la place où il y avait une ville qui battait comme un cœur prodigieux, une fille dont les yeux étaient pleins du soleil de mer. Mon Dieu, faites que ce soit un mauvais rêve, réveillez-moi. Réveillez-moi, réveillez-moi, réveillez-moi.
La pièce suivante est le fruit du travail de Claire Renaud, Robin, Chalin Baptiste, Fort Quentin et Le Turc Faldoni. Ils ont choisi de travailler sur l'anonymat. Nous écoutons maintenant Vitre et Secrète.
Voici un extrait alléchant des confessions de nos plus beaux spécimens dans leur élément naturel.
Non, mais les mecs, ils te prennent pour voilà, un peu cher, et puis... Ouais, parce que t'es gentil.
Moi, j'aime bien manger des nouilles aussi.
Alors, tu as du rouge avec un ours vert devant.
Extrait alléchant. Beau spécimen.
Moi je t'en garde si tu veux.
Samedi, ouais.
Même dimanche.
Samedi, pas
grave. Non, mais samedi, je sais pas ce qui s'est passé, mais tu les crois, tu les
bien. Ouais, moi j'ai mon cousin qui
est allé au champ.
Je fais pour aller au champ, parce qu'au Guenier et
le bus, normalement, il fait le grand tour, il passe par devant le trou d'enfer, là, et tout.
Bah là non, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le trou pour qu'il passe par là.
Pourquoi? Parce qu'il ne fait plus circuler par là.
Tu aurais dû voir si tu veux, je t'ai senti au champ. Mais moi, je savais plus quelle route prendre. Vous savez que j'ai marché sur la route. Je me suis pris les trucs avec ces pins là. Ma veste a été niquée de partout, mais c'est pas grave. Les gens, ils sont en train de m'attendre me klaxonner. Va te faire foutre, toi.
Ah ouais.
Après, j'arrive à Kaby, je reprends le bus. Bah, j'étais à l'Alme, je cherchais une paire de gants, mais Kaby n'allait pas. C'est super. Par contre, quand j'ai vu le monde par là, je suis au champ, le parking, il est mort. Hein. Les gens, ils arrivent, je sais pas où, mais il est mort. Ouais. Et le bus aussi était barré.
Il y a un gamin qui s'est écouté et puis il va pouvoir...
Moi j'aime bien manger des nouilles. Néanmoins, c'est très.
Je lui dis, ouais, mais concrètement, ça va se passer comment? Vous allez encore noyer le poisson en disant qu'il ne va pas être là jusqu'à la fin de la semaine, après c'est les vacances, et alors après il va être... Non, on travaille dessus, non, il ne sera pas là, et tout. J'appelle la section d'académie, je compte sur l'homme qui a le soir, et puis elle me dit, bah, de toute façon, j'ai le problème.
Ah ouais.
Voici un extrait alléchant des confessions de nos plus beaux spécimens dans l'élément naturel.
Maintenant, premier amour. Ici, les étudiants ont interrogé les passants sur leur premier amour, en ne ciblant ni tranche d'âge, ni genre. Ce n'était pas le thème de l'amour qui les intéressait, mais plus l'action de rentrer dans une conversation que l'on pourrait qualifier d'intime avec des inconnus.
visage, on ne l'oublie jamais, je crois. C'est un truc comme ça. On n'oublie jamais le visage. Enfin, les papillons dans le ventre, je sais pas. Je suis un peu gênée de parler de ça, en fait.
Ça fait une vingtaine d'années, et ça remonte, bah, ouais, il y a 40 ans.
C'est un amour qui dure depuis très longtemps. Ça fait 36 ans que j'en ai marié.
Je suis restée 2 ans avec.
On s'est connus 6 ans. Que j'ai rencontré il y a 5 mois et tout.
Elle avait 15 ans, j'en avais 17.
On s'est connus dans un bal populaire, tout simplement.
J'étais en camping avec mes parents. C'était du côté de l'Isère.
Et puis on était quand même du même village, un petit village à la campagne, voilà, où il y a encore des bals populaires.
Elle était en maternelle avec moi.
En fait, à l'époque, il y avait la sacro-sainte messe du dimanche matin avec le catéchisme. Et donc c'est à l'église qu'on s'est rencontrés. Elle habitait rue de Flore, au Mans. Et moi, j'habitais rue de l'Éventail. Et donc, on passait nos jeudis après-midi à se bécoter sur les bancs du Jardin des Plantes.
Elle s'appelait Marie-Aimée.
Mon mari a fait des études de médecine. Moi, j'ai fait des études, mais dans 2 villes différentes.
Mon premier amour s'appelait Damien. Il était brun aux yeux bleus. Il était d'origine portugais.
Il s'appelait Maëlle. Et une fille qui s'appelle Maëlle aussi.
Son prénom, c'était Annick.
Je me souviens de son adresse, son nom, son prénom.
Et c'est vraiment bon, un amour avec beaucoup de partage, beaucoup d'écoute.
C'était mon premier amour, voilà.
Depuis, il a retrouvé une copine, il est heureux avec. Moi, j'ai retrouvé quelqu'un aussi. Et voilà, ça restera mon premier amour quand même.
Et donc, on a eu un coup de foudre.
On a continué évidemment à se voir, ça a été le coup de foudre.
Et je m'en souviens encore.
J'ai des bons souvenirs avec, je lui parle toujours d'ailleurs, puis je garde des bons souvenirs de l'avoir, puis voilà.
J'ai gardé des bons souvenirs avec elle et tout, on a passé plein de bons temps ensemble et tout, et c'est magnifique.
C'est elle qui m'a appris à embrasser, parce que moi je ne savais pas, j'étais encore tout idiot.
Je t'ai remarqué, je t'ai suivi, je t'ai perdu, et puis je t'ai retrouvé longtemps après. J'ai écrit ton prénom sur ma main parce qu'il est un peu compliqué. Et puis après, on s'est à nouveau séparés. La vie a fait que j'ai divorcé, tu étais veuve, tu es devenue veuve. Puis on s'est retrouvés encore une fois et puis là, on ne s'est plus lâché.
C'était Premier Amour. Une pièce réalisée par Adrien Gaulin et Adèle Delfosse, qui sont ici devant nous pour nous parler un petit peu de cette première initiation sonore. Donc, je vous pose la question, comment s'est passé cette sorte de micro-trottoir à des inconnus, justement, pour leur demander, pour leur poser des questions sur leur premier amour?
C'est vrai que c'était un peu un défi pour nous d'aller justement vers des inconnus pour leur demander quelque chose d'assez intime. Et on a essayé de se confronter un peu à tous les âges, aussi bien âgés que les plus jeunes. Et finalement, le plus dur, ça a été d'aller vers les personnes les plus âgées, qui avaient beaucoup plus de mal à en parler, et pour raison X ou Y. Sinon, ouais, avec les jeunes, c'était moins compliqué.
Très bien. Comment avez-vous travaillé pour monter cette pièce, pour la mixer?
Je sais pas si vous pouvez l'entendre, mais au début, il y avait un battement de cœur. Ça peut paraître un peu naïf, ou je sais pas, mais c'était premier abord. Qui nous faisait penser à ça. Et après, on est allé par. Au début de la pièce, malgré le titre, on voulait que les gens ne savent pas trop de quoi parlent les gens interviewés. Au début, voilà, les personnes décrivent des lieux, décrivent ce qu'elles ont ressenti à ce moment-là. Et petit à petit, elles vont directement dans décrire leur amour. Et après, on comprend de quoi ils parlent.
D'accord. Vous avez eu beaucoup de facilité justement à aborder ces gens-là, à leur poser ces questions-là, sans leur donner trop de directives.
Justement, ils étaient un peu perdus parce que nous, on voulait vraiment ce qui leur passe par la tête quand on leur pose cette question, enfin des ressentis ou des descriptions. Et finalement, ils étaient un peu perdus parce qu'on leur donnait trop de liberté. Ils étaient là, mais je dis quoi? Je donne un nom? Je fais quoi? Et c'était assez drôle, en fait. En fait, soit on se confrontait avec des gens qui voulaient pas du tout en entendre parler, ou soit le peu de personnes qui nous ont parlé, bah, en fait, c'était super, quoi, parce que on partageait un petit truc comme ça pendant une minute, une espèce de confession.
Très bien. Du coup, comment on fait sur votre question, je ne sais pas. Pouvez-vous nous parler un peu de cette initiation-là, justement? Parce que on vous a, bon, est-ce que vous étiez assez libre au niveau du sujet, ou est-ce que c'était imposé un micro-trottoir
Bah, en fait, on avait le choix entre deux sujets, soit un sujet du style investigation ou un autre thème plus libre. Et enfin, nous, ce qui nous intéressait surtout, c'était le principe d'aborder des inconnus comme ça et de soutirer quelque chose d'intime et enfin de très fort ancré en eux. Et pendant quelques instants, on était proches de gens que le lendemain, on oublierait les visages et on aurait juste cette histoire pour se le rappeler.
Et l'expérience vous a plu?
Ouais.
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 On va recommencer donc, peut-être?
Ouais, et puis c'était hyper... Ouais, c'était la première fois qu'on faisait ça et...
Ouais.
Je trouvais ça génial.
Et du coup, pourquoi avoir fait pourquoi le premier amour?
Bah, le premier amour, au final, c'est quand même assez universel. La plupart des gens le connaissent. Qu'il soit âgé ou vieux, on le rencontre au moins une fois dans sa vie. Et c'est quelque chose qu'on n'oublie pas. Enfin, on s'en souvient toujours parce que ça nous a marqué. Après, ça dépend, il y a des gens que ça a marqué plus ou moins, mais c'est quelque chose que tout le monde possède et on savait très bien qu'en posant cette question à n'importe qui, on avait forcément une réponse.
Puis cette façon comme ça de rentrer dans l'intimité des gens, ça nous a plu. Ça nous a paru pertinent.
D'accord. Eh ben, merci beaucoup à vous. En espérant que vous continuiez bien... si vous comptez continuer dans le sonore. Merci à vous.
Merci.
De rien.
Partons maintenant pour Venise. Oubliez les gondoles et ouvrez vos oreilles. Nous voici à la Biennale d'art contemporain dans le pavillon polonais. Prêt à écouter Everything Was Forever Until It Was Nothing de Konrad Smolenski. C'est parti. Konrad Smolensky, Everything was forever until it was nothing.
La pièce qui arrive se nomme Michel, mais aussi Christian. C'est la tentative de création d'un espace physique, social et sonore qui a pour but de stimuler un seul de nos sens, l'ouïe.
Et tes vacances en Alsace?
Ah, mais tu crois au truc? Non, mais tu sais, j'y croyais pas, moi. Des cercles dans les champs, des conneries avec les sous-coupes.
Depuis deux jours qu'il est à l'hôpital.
C'est ramené avec une boîte de céréales un matin.
Non mais n'importe quoi, on s'en fout de ça. Moi je te dis que Michel est à l'hosto et toi tu me fais chier avec cette connerie.
Non mais il est chelou quand même. Quand
même. Bonjour monsieur, je crois que monsieur vous attend. Je vous laisse prendre l'ascenseur.
Mais quelle soirée!
Mais c'est le samedi!
Mais de quoi tu me parles, mon dieu?
Mais Christian! La soirée est samedi! Bonjour, vous montez?
Oui.
Bon alors, du coup, t'y étais, toi?
Mais non, j'y étais pas!
Mais qui t'a dit ça, alors?
C'est Gisèle! Elle y était, elle!
Mais y'avait quoi, du coup?
Y'avait le boss! En plus, en divorce, il se lâche! Mais il se lâche?
C'est-à-dire, mais...
Vous montez ?
Mais du coup, il a fait quoi ?
Tu sais bien ce qu'ils font, les boss, quand ils se lâchent.
Qu'est-ce qu'il a fait ?
Tu veux vraiment que je te dise ?
Mais oui ! Eh ben... Allez, aidez.
Mais non, je dirais pas, c'est gênant. Et je perdrai mon poste.
Mais on s'en fout de ton poste, bordel ! T'es pas une tata !
Mais...
Roger, la tata ! Roger, la tata !
Chut, chut, il est là.
Bonjour.
Bonjour, vous montez ?
Oui.
Ah, monsieur Paulson, vous aviez rendez-vous.
Une marge absolument parfaite, 1/16 de tous les côtés, la sélection des couleurs est nickel, ça ne saigne pas. Personne ne travaille comme ça aux États-Unis, à part nous, bien sûr.
Il a été imprimé où?
Il a été imprimé sur un monstre.
C'est pour ça qu'il est hospitalisé? Il paraît que les médecins savent pas.
Bizarre.
Attends, mais Christian m'a dit que c'était à cause de la relation que Michel a eu avec Georgette, de la compta.
Mais Christian, a fait des
merde, j'ai perdu mon repos.
Vous êtes des pains bêches.
Patrick, un petit cookie.
Ouais. Il a chopé une merde parce que tout le monde sait que Georgette...
Quelqu'un a vu mon repos.
Elle est sale.
Quoi? Mais c'est des conneries, ça. Je suis sûr qu'il a juste mal digéré. Hé,
mec, Michel, là?
Oui. Non.
Ah, c'est fermé. Je suppose qu'il devait avoir une urgence. Je suis sincèrement désolé. Je vous raccompagne.
Une indigestion?
Non, tu comprends pas. C'est un truc carrément qui est né dans son bide, à l'intérieur.
Comme une sorte de bête?
Mais pire, il paraîtrait que c'est une sorte de bête, tu vois, mais non identifiée.
Donc, vous n'avez aucune expérience, pas le moindre diplôme, pas de compétences particulières, rien?
Non.
Ok, vous avez l'autorité.
Camoulox! Comme dans Alien!
Le truc qui sort du bide et tout.
Ça, c'est sa femme qui me l'a dit.
Merde,
c'est ça, mais
nickel, mon fantastique, j'ai cru voir des Zidane! Et la règle Martins!
Mais oui, l'imprimante là! Elle peut imprimer 5 feuilles en 1,21 secondes.
Mais si, c'est tout super fort!
On s'en fout!
Imagine, il te fait pas la possibilité de faire ça nous.
Au revoir, monsieur. Et encore désolé.
Au revoir.
Thank you.
Regarde, vous vous souvenez de Michel, c'est ça le jour.
Ouais, on sait, il y a plus grave parce que...
Eh bah, ce con, il s'est étouffé avec le petit jouet qui était à l'intérieur.
C'était quoi le petit jouet?
On s'en fout, ça.
Je sais plus, une sorte d'ovni fluo, le truc à deux balles.
Non, mais sérieux.
Bon, cette fois, je vous dépose où?
Vous venez donc d'écouter une pièce de Maxime Paulet, Valentin Alizé, Loca, Luca Acari et Luca Pastor.
On s'est tous déjà demandé ce que pensent de nous les passants. Nous voient-ils vraiment? On se croise sans se parler, sans se regarder, l'œil vitreux. On est dans nos mondes, témoignage d'individus dans l'attente. Les gens n'aiment pas les gens. Une pièce de Mathilde Fest, Wendy Autric, Eudeline Magloire et Jeanne Minier.
C'est-à-dire qu'ils ont froid en cette période de l'année.
Non, là, je sais pas quoi vous répondre, je sais pas, allons.
Je pense qu'on a vraiment envie d'être seul.
Un bon sourire, c'est communicatif et ça fait toujours du bien à recevoir et ça coûte rien à donner.
Les gens n'aiment pas les gens. C'est une chose, c'est certain. Les choses se font quand on est seul. De toute façon, si on est tranquille chez soi, on n'a pas besoin de voir les gens.
Des personnes qu'on ne reverra probablement jamais.
Dans une gare, on est tellement habitué à être tout seul qu'on n'a pas envie de voir les autres. En plus, tout le monde l'a regardé, le monsieur derrière moi. Et avec son portable, vous croyez qu'il a besoin de parler à quelqu'un? Non, il est en train de chatter tranquillement avec ses faux amis sur Facebook. Voilà.
C'est triste ce que je dis.
Je fais pas vraiment attention.
Mais je le regrette. Hein.
On voit des gens à qui on n'a pas forcément envie de parler, des gens qui n'ont pas non plus forcément envie de répondre, des gens qui sont dans leur monde. Je pense que dans une gare, en plus, on est dans un endroit public. Dans tous les endroits publics, on est comme dans une bulle. On n'a pas envie non plus que les gens rentrent dans la promiscuité de notre corps ou de notre façon d'être. Donc de toute façon, on est tout seul et on veut le rester.
Vous parlez des gens qui se promènent ou des SDF?
Que ce soit des jeunes vers les anciens ou les anciens vers les jeunes.
C'est pas que je fais pas attention, mais quand il n'y a pas de problème, on fait pas toujours très attention, c'est vrai.
C'est pour ça que quand vous m'avez adressé la parole, moi je suis méfiante.
La timidité aussi, probablement.
Je suis réservée.
J'ai besoin de personne, maintenant.
Bonjour, c'est quelque chose qui se dit plus.
De voir des gens qui sourient pas, ça donne pas envie de regarder les gens et de s'inquiéter pour eux.
On n'est pas là pour se faire des amis, on est là pour prendre un train.
Such
to it for sure. Your little eye will be winking. I get confused, I never know where I stand. And then you smile and hold my hand. Love is kind of crazy with a spooky little boy like you. Spooky, spooky.
Nous allons nous quitter sur cette reprise de Spooky, un son de Dusty Springfield.
On remercie donc notre invité, Jean-Michel Espitalier.
Merci.
Et toute la petite famille de Radio On.
Son équipe de direction d'antenne, son équipe technique, de com, de webmaster, la photographe, nos coordinateurs Philippe Langlois et Christophe Domino et tous les autres.
Ainsi que nos partenaires de Radio Radio à Bourges, notamment Anne-Libe Boucher, qui nous a envoyé une pièce ce soir. Ah oui, et j'oubliais notre émulateur d'ondes virtuelles, Henri-Michel Jean.
Réécoutez toutes nos émissions sur radio-on.org.
Bonne soirée
et au revoir.
Bye bye.
Ah, mais j'oubliais, c'est bientôt Noël, alors...
Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Qu'il s'en passe, qu'il s'en soufflant dans mon sapin vert.
Oh,
vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Boule de neige, jour de l'an, et bonne année grand-mère.
Ouais. Bonne soirée, bonne nuit, merci d'avoir été avec nous.
Happy Christmas.
Rendez-vous le 30 janvier 2014.
Bravo tout le monde, c'est super.
Mais c'est quoi ce truc de nous laisser parler pendant qu'on est à l'antenne sans nous dire qu'il fallait parler pour dire au revoir? Pourquoi vous nous faites toujours ce petit moment où en plus je ne dis que de la merde?
Oh, yeah.
Je suis le plombier. On m'a dit que vous aviez un problème de plomberie.
Oui, un énorme problème.
Voulez-vous que je répare ce problème?
Oui, je veux bien.
De plomberie.
Réparez-le.
Mais où ai-je mis ma clé de 12? Je ne la retrouve pas.
Je ne sais pas.
Ah, est-ce que c'est cela? Bah, c'est super.
Bon, allez, au revoir.
C'était Radio-Radio.